ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Madame Ouria. Bonjour Ouria, d'être venue à Radio Présence. Vous venez nous parler de votre métier. Vous êtes kinésithérapeute en France, à Toulouse depuis déjà de nombreuses années, mais vous venez de Kabylie, de Djourdjoura. D'ailleurs, sur le site, nous avons mis cette photo, cette magnifique photo de votre pays natal. Ma foi, j'y crois. Vous êtes profondément attiré par l'aide aux autres et spécialement par des infirmes moteurs cérébraux. Vous êtes allé même jusqu'en Belgique pour avoir une formation complémentaire puisque vous aviez organisé un centre pour ces enfants et ces adultes qui sont en difficulté. Et je continue à parler, mais c'est vous qui allez parler. En fait, nous étions connus à Villatéo, hein, au Christ Roi, où il y avait une journée pour aider des personnes qui sont précaires ou qui sont en difficulté avec Katharina, que nous avions entendue il y a de cela 15 jours. Ouria, donc vous venez de Kabylie et vous êtes kinésithérapeute.
Je suis mère de deux enfants, un gendre et une belle-fille, issue d'une famille nombreuse.
Oui.
Je suis kinésithérapeute retraitée dans mon pays d'origine qui est l'Algérie. 35 ans d'expérience et j'étais aussi présidente d'une association des enfants en situation de handicap atteints d'une infirmité motrice cérébrale. L'association, elle a une appellation, c'est À tout cœur IMC.
À tout cœur.
À tout cœur IMC.
C'est ça. À tout, au double sens du mot.
Oui.
Tous les cœurs sont invités à partager, à s'aimer, mais aussi c'est un atout au lieu d'une faiblesse, comme quand on joue aux cartes.
C'est ça.
On sort son joker. À tout cœur. Et donc, dans votre métier, c'est justement de faire prendre conscience à ces personnes qu'elles ont toute leur place dans la société, même si parfois c'est, même si souvent c'est difficile. Et donc c'est la place du corps qui est importante pour vous. Mais vous m'aviez dit, c'est moi qui vous ai dit, mens sana in corpore sano en latin, il ne suffit pas d'avoir la bonne santé, il faut aussi avoir un esprit, une sagesse. Ça sera le mot de la fin. Hein. Vous allez nous parler de cette sagesse que vous recherchez, mais aussi d'abord dans le corps. Alors, nous nous étions rencontrés aussi il y a 15 jours lorsque ces trois femmes qui échangent sur les livres de référence, certains disent les livres sacrés qui sont la Bible, le Coran ou autre chose, évoquent la difficulté des femmes de vivre dans certaines sociétés. N'est-ce pas? Il y avait Fatima, et puis il y avait la dame qui est pasteur, et puis cette dame qui est imam. Mais vous, dans votre métier de kinésithérapeute, vous avez suivi ces jeunes et ces femmes.
Ce qui m'a poussée de créer cette association, c'était le constat. La première des choses, c'était le constat pendant ma fonction. Les difficultés, il y avait des difficultés, un manque de moyens. Je voyais surtout les mamans souffrir avec leurs enfants. Et c'est ça qui m'avait vraiment... c'est-à-dire ça m'avait vraiment marqué pendant ma formation. Donc, je constatais tout ça.
C'est votre vocation.
Oui, c'est ma vocation.
À aider les autres.
À aider les autres.
Vos convictions qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le destin, que l'origine.
C'est ça. Après, il y a eu la formation à l'étranger, en Belgique, à Bruxelles, dans une structure associative. Et aussi en national, j'ai fait beaucoup d'autres formations. Donc, à partir de là, c'était le déclic. De créer cette association. Et en faisant toutes ces formations,
Vous avez acquis davantage d'expérience.
Oui, toutes ces rencontres, voilà, de partage et de, c'est-à-dire, ça a forgé, comment dirais-je, c'est-à-dire mes idées encore plus et appuyé encore plus. Et c'était, c'est-à-dire, le constat à faire était là. Et, c'est-à-dire, c'est à force de voir, de constater
et de pratiquer
et de
aussi.
Oui, c'est ma fonction. C'était ça qui m'avait, c'est-à-dire, il fallait que je crée cette association. Je voyais que ces enfants manquaient de, il y avait pas le beaucoup de temps
et de soutien.
Et pour une bonne prise en charge, pour parce que c'est des handicaps, c'est des enfants qui sont en situation de handicap très lourd. Donc, il fallait soulager un peu ces mamans et de leur donner un petit espoir et que ces enfants-là reprennent une certaine mobilité, une certaine indépendance et voir le sourire sur leur visage. Tout ça, c'était ça qui me tenait vraiment à cœur.
Et puis, il y a eu des moments aussi, lors des années noires en Algérie, où il y avait des blessés de la vie. Et c'est encore un autre type de handicap.
Oui, oui, l'handicap, il y a eu beaucoup d'handicaps, oui.
Et alors, à un moment, d'abord, il y a eu déjà un premier passage, un premier déplacement qui est de votre village jusqu'à Alger. Et puis ensuite, un deuxième passage qui est de l'Algérie à la France.
Oui, c'est ça.
Où vous avez rencontré toutes sortes de personnes.
Oui.
Qui vous ont aussi permis de vous renforcer dans ce désir de continuer à faire ce travail. Avec parfois des petites difficultés, c'est que les diplômes ne sont pas toujours équivalents. Alors ça, c'est un autre souci, mais on pourra en reparler une autre fois. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir l'aspect institutionnel et puis l'aspect affectif qui fait que vous êtes mobilisé dans cette démarche. Professionnelle.
À ma venue en France, je suis arrivée en France le mois de février 2020.
Oui.
Et je suis en visite familiale. Je suis arrivée en visite familiale. Après, il y a eu la pandémie.
Le Covid.
La Covid.
Mais avant, vous aviez déjà fait plusieurs voyages.
Après, hein, avant ça, je faisais mes voyages, je repartais. Oui, je venais rendre visite à mes enfants qui étaient là. J'ai deux enfants, ils sont ici en France pour études. Donc, je venais souvent deux, trois fois dans l'année leur rendre visite, être à leur, c'est-à-dire à leurs besoins, etc. Et la venue, c'est-à-dire, mais depuis février 2020, donc je suis venue pour une visite familiale comme d'habitude.
Et vous êtes restée.
Et je suis restée. Il y a eu la pandémie.
Une opportunité, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. Hein?
C'est pour ça aussi que vous nous avez choisi cette belle chanson de Havana Inova. Et c'est justement la question d'un homme qui est enfermé et qui et sa fille lui demande d'ouvrir. Donc de sortir de chez lui, de ne pas avoir peur de l'ogre. C'est ça ?
C'est ça, oui.
Ben alors, nous allons l'écouter et puis ensuite, eh bien, vous nous traduirez parce que c'est en kabyle.
Oh, قمر يتسل دقبر نوس دي سيكالة يزيزين ميسيت حبير القوت وصندوق قرص الزين قمر يتسل دقبر نوس دي سيكالة يزيزين ميسيت حبير القوت وصندوق قرص الزين سليت ذفير وزطة سليتي جبالين أرش الزين دي ثمغرفة سنصار تقديمين سليت ذفير وزطة سليتي جبالين أرش الزين دي ثمغرفة سنصار تقديمين يا لا لا يا لا 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 أرش الزين دي ثمغرفة يا لا لا يا لا 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 أسنت صغر في قديمي
تلخي اللي ينتبور ذابا بين وبغابا بين وبغابا
جن جن تيز بقاتيني ما يلي غريبا
ما فوا جي كوا avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui avec Ouria. Vous venez de Kabylie, vous êtes à Toulouse, vous étiez venu en France déjà de nombreuses fois, et vous nous avez apporté ce beau chant d'Idriss. C'est le chant ou c'est un cantique qui correspond à votre enfance et qui montre bien la Kabylie. Vous nous avez traduit, ou vous allez nous traduire ces phrases qui sont de votre langue maternelle. Hein, c'est une fille qui veut entrer et qui s'adresse à son papa.
Qui s'adresse à son papa. Le papa en kabyle, c'est Veva.
Veva Inova.
Veva Inova. Et le texte, il évoque les veillées dans les villages, dans les villages des montagnes kabyles. Et c'est la transmission orale des contes et d'enseignements traditionnels.
Avec la peur de ces manières de tout ce qu'il y a dans la montagne.
Oui, une jeune fille sauvant son père, emprisonné d'une forêt d'ogres. Dans la chanson, ça parle de chacun des membres de la famille. Le grand frère s'occupe des besoins de la famille. L'épouse, elle fait le tissage. Et la grand-mère, elle transmet les contes aux petits-enfants. Et le grand-père, il est là, dans son burnous. Le burnous, il est enroulé, il est là à l'écoute.
Parce qu'il fait froid dehors.
Il fait très froid dehors, il neige. Et ils sont autour d'un feu. Et ils sont tous autour d'un feu et la grand-mère qui racontait des contes. On est là à écouter, à partager.
Il s'agit des besoins primordiaux
des uns des autres.
Trouver du pain, de pouvoir tisser des vêtements. Mais c'est un petit peu la tradition.
C'est la tradition, c'est tout le monde qui travaille. C'est tout le monde qui travaille, qui participe, qui partage.
Il a eu beaucoup de succès en Algérie, en Kabylie, dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Ce chant. Hein, ce poème. Et ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est aussi ce qui donne le courage d'aller plus loin, de sortir de chez soi. Et c'est ce que vous avez fait justement. Et lorsque vous rencontrez ces enfants ou ces personnes qui sont en situation de handicap, vous allez les sortir d'eux-mêmes. Il y a dans les sagesses des chrétiens et des juifs cette question où Abraham, on lui dit « sors de toi-même, va vers toi-même ». Et vous m'avez dit « oh oui, mais je ne veux pas trop parler de la religion, je ne veux pas parler de ce qui trop souvent divise les hommes » parce que vous êtes assez intéressé par la laïcité française. Vous m'avez dit « ah ben oui, c'est très simple pour vous ». La laïcité, c'est la reconnaissance.
Alors pour moi, la laïcité, c'est la reconnaissance de
ce que chacun peut exprimer, oui. La liberté de conscience.
C'est la liberté de conscience, sans différence, les mêmes droits pour tout le monde,
qu'on soit
croyant ou pas. Et c'est-à-dire, on a la liberté d'exprimer, de manifester ses, ses croyances ou convictions
dans l'espace
public,
dans l'espace privé.
Comme dans l'espace privé, bien sûr, sans atteindre la liberté de l'autre public.
C'est pour ça aussi qu'on avait apporté un autre conte, le conte d'Antoine de Saint-Exupéry sur le Petit Prince. Et on avait médité un petit peu sur l'histoire du roi, du débat. Hein, le roi qui pense que son royaume, il est fort dans ce royaume. Et le Petit Prince, il voit avec un petit peu d'ironie et puis dit, mais non, tu ne peux pas juger les autres. Hein, c'est déjà plus difficile de se juger soi-même. Et de juger autrui, alors si tu réussis à bien juger, c'est que tu es sage. Cette sagesse dont vous allez nous parler tout à l'heure, mais aujourd'hui nous sommes le 6 juin, nous sommes le lundi de Pentecôte. Vous m'avez dit, ah ben oui, le lundi de Pentecôte, ça m'intéresse justement cette laïcité, pourquoi c'est un jour chômé ?
Le lundi Pentecôte, c'est un jour férié pour les Français.
Mais c'est pas pareil pour tout le monde.
C'est pas pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'obligation de travailler ou pas. C'est-à-dire, chacun, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas.
Ah oui, mais ceux qui sont fonctionnaires et qui ont un revenu, c'est pas pareil que ceux qui sont payés à l'acte, qui sont dans une situation également de précarité financière.
Oui.
Alors, on avait dit que le gouvernement français avait dit que ce lundi de Pentecôte, c'était pour la solidarité avec des personnes âgées ou avec ces personnes en difficulté. Et puis, eh ben, comme souvent, on ne change pas la société par les lois. Hein. Vous me dites, ah ben oui, mais on a trois jours.
Ouais. Il y a certains qui, c'est-à-dire pour eux, c'est un week-end prolongé de trois jours où ils fêtent leur mariage. Oui. Ils profitent d'aller en week-end.
En famille.
Par contre, pour les croyants, c'est pour les chrétiens, c'est...
Le don de la Pentecôte, on va parler dans toutes les langues. Hein, et nous sommes allés voir sur le site, justement, sur Google ou sur des sites. C'est 50 jours après Pâques, donc ça reprend une fête juive. Hein, où c'était justement après la sortie d'Égypte, la libération, eh bien, il y a le don de la loi. Et chez les chrétiens, vous disiez, bah oui, Marie, c'est important parce qu'elle est là avec les apôtres. Et puis, ils n'ont plus peur d'être enfermés dans leur maison. Et ils vont dire à tout le monde que Jésus est vivant, on peut parler de lui sans avoir peur. Et on sait que beaucoup... Ils vont mourir peut-être de ce témoignage, comme beaucoup d'ailleurs en Algérie ont eu simplement par le fait de pratiquer une certaine manière les a fait être les victimes d'autres personnes radicales. Vous l'avez expérimenté dans votre vie et c'est pour ça que cette laïcité en France vous la remarquez.
Oui.
Et puis, si nous revenons maintenant à votre métier, la difficulté de donner des conseils aux familles, chaque cas est différent, vous me disiez. Hein? Il faut sentir d'où vient la personne qui est malade et comment ses parents, mais aussi les médecins ou les autres professions vont participer à la santé de ces personnes. Nous avons aussi en projet, au mois de juin, d'avoir la rencontre avec toutes les professions qui s'occupent des familles, Famille 31. Hein, nous en avons parlé aussi sur cette antenne. Et tous les candidats à la députation vont être incités à définir qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie politique pour... faire que les enfants ne soient plus soient battus, soient pris en compte dans toute leur capacité, dans toute leur vie. Et c'est là où votre expérience de Bruxelles est utile. Vous avez trouvé des expériences qui sont transposables,
oui.
Et en Algérie et ici.
Oui.
Par exemple.
Par exemple, depuis que j'ai fait la formation à l'étranger à Bruxelles, c'est-à-dire le constat, c'était de créer des structures pour que ces enfants qui sont en situation de handicap aient une meilleure prise en charge, c'est-à-dire et puis avoir le temps d'être là avec eux, c'est-à-dire avec eux et de les accompagner et aider aussi les parents. En Kabylie, par exemple, les parents qui habitent dans les montagnes, etc., et ils vivent dans des difficultés, surtout de transport, c'est-à-dire de déplacer à chaque fois avec leurs enfants, c'est pas évident, c'est pas facile. Voilà. Mais après, c'est pour ça, c'est-à-dire la structure. Mon but, c'était de soulager surtout les mamans. Les mamans que je voyais souffrir avec leurs enfants en situation de handicap. Il y a un manque de moyens aussi sur tout ça. Et puis aussi, pour qu'ils bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire un travail tous ensemble, l'équipe médicale, c'est-à-dire de travailler tous ensemble en tant que kinésithérapeute, médecin, orthophoniste, psychologue,
éducateur,
etc.
C'est-à-dire ce que vous continuez à faire dans les échanges avec l'association que vous avez créée en Algérie à tout cœur. Et puis, dans des métiers auxquels vous vous préparez maintenant à Toulouse. Et c'est aussi l'intérêt de faire des échanges entre Tizi Ouzou ou bien ce qui se passe dans les pays d'Europe pour que les lois changent et pas seulement que ce soit le bon sentiment. Vous avez un message de sagesse pour conclure notre entretien, qui malheureusement est déjà fini, mais c'était aussi la parole du petit prince. On ne voit pas seulement bien lorsqu'on voit que quelqu'un a le corps qui est parfois blessé ou qui est limité dans ses mouvements. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et puis, un autre message de sagesse que vous nous avez apporté, qui est celui du mot de la fin.
Je souhaite qu'on vive tous ensemble dans un environnement de partage, d'échange, de s'entraider, de liberté, sans jugement, dans la simplicité, sans difficulté.
Et ça, vous pouvez le dire dans votre langue maternelle pour ceux qui nous écoutent.
Vesho iminar. أنا عيش يركلي ذي الدوكلا ذي الهنا ذي الراحة ذي الراحة أين رغد يوين أين سوش أنا نروح أرزدث في حلمة ويوضا كدي سموقل إلا قنت معاون يرانا.
Merci beaucoup, Aïssa. Et vous dites aussi qu'il faut laisser venir les choses qui viennent. Et qu'il faut laisser partir ce qui s'en va.
Oui, pour vivre heureux dans la vie, il faut simplement laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va.
Eh bien, notre dialogue est déjà fini, mais vous reviendrez pour nous parler de votre expérience. Merci à Christophe pour la technique. À bientôt.
Au revoir.